Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce qu'est un synode, donc je vais déjà juste expliquer ce que c'est. C'est en particulier le synode de l'Église protestante unie, parce que le synode, c'est des mots dont on entend parler parfois aussi pour l'Église catholique, mais la réalité de ce qu'on y vit est bien différente. Synode, ça veut dire « marcher avec ». Notre Église a une gestion en assemblée. Localement, c'est l'Assemblée générale qui se réunit une fois par an, qui vote les décisions proposées par le Conseil presbytéral. Le Conseil presbytéral se réunit toute l'année, enfin pas tous les jours. Le Conseil presbytéral est élu par l'Assemblée générale et a la confiance de l'Assemblée générale pour appliquer les décisions, etc. Et au niveau, ça c'est au niveau local, au niveau régional, donc après il y a le niveau national qui est comme le niveau régional, mais au niveau régional, le synode se réunit une fois par an, en général autour du mois, enfin dans le mois de novembre. Il comprend tous les pasteurs de la région et un membre délégué, donc un conseiller presbytéral délégué de chaque paroisse, donc il y a un laïc par poste pastoral. Et le conseil régional eh bien, a le même rôle que le conseil presbytéral. Donc, dimanche dernier, avec Moïse, nous étions à Dourdan, et puis Géraldine aussi. Et puis voilà, nous étions en fait 163 membres votants, il y a aussi des invités. Tous peuvent prendre la parole. Et cette année, nous avons réfléchi et travaillé en atelier sur le sujet de la mission de l'Église, qui va nous occuper pendant 3 ans. Et un autre sujet nous a aussi occupé pas mal dans les débats, celui des finances. Nous en reparlerons aussi aux annonces. Revenons à la mission de l'Église. Dans la plupart des églises chrétiennes, le temps de l'Avent marque un début. Dans un mois, pourtant c'est la fin de l'année civile, nous n'y sommes pas encore, mais le premier dimanche de l'Avent marque d'attente de Noël, et c'est le moment d'un nouveau départ qui correspond à ce qu'on appelle l'année liturgique. Et cette année liturgique commence avec la naissance de Jésus, notre Sauveur. En tout cas, nous croyons qu'il est le Sauveur du monde et qu'il est notre Sauveur. La foi chrétienne est basée sur sa présence, sur sa parole, sur ses actes, sur sa vie, jusqu'à sa mort, et son relèvement de la mort pour une vie éternelle, promise à tous. Et la foi chrétienne porte une espérance tellement universelle, parce qu'elle touche à la mort, à la vie, à ce qui fait notre humanité. Universelle aussi parce que c'est un sauveur qui nous libère de tout ce qui est mortifère, ici et maintenant, dans notre monde. Eh bien, Jésus lui-même nous demande de la partager avec tout être humain dans le monde entier. Nous avons entendu les textes de Matthieu et Jean, j'aurais pu en choisir d'autres, faites de toutes les nations les disciples, et puis Jean, dans l'évangile de Jean, Jésus nous prend comme collaborateur. Jésus dit à Dieu, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Alors, au synode, ça a été notre première constatation. L'annonce de la bonne nouvelle est la mission première de l'Église. Elle est structurée par cela. L'Église est composée de personnes qui ont reçu cette bonne nouvelle pour eux-mêmes et forte de cette joie, eh bien, l'Église est appelée à la partager. Le texte du synode dit « Ayant reçu ce message, elle est sans cesse appelée à aller vers les autres. » Et cette bonne nouvelle est sans cesse un mouvement collectif et individuel. Et c'est un mouvement qui ne s'arrête pas, que je vais peut-être dire perpétuel, où les deux se nourrissent mutuellement et où les deux sont indispensables. L'Église est dépositaire d'un message qui a traversé les siècles grâce à l'action du Saint-Esprit. Et grâce à l'Église, nous qui sommes là ce matin, nous avons entendu une bonne nouvelle, personnellement. Et du coup, nous formons une communauté visible histoire de foi est pour chacun et chacune différente. Et c'est ça qui fait la force de notre Église, c'est que nous sommes complètement différents et pourtant nous sommes là au nom de notre Seigneur. Alors, ce mouvement de l'individuel au collectif, eh bien, nous le voyons aussi par nos deux sacrements, le sacrement du baptême, qui est fait pour chacun de nous, personnellement. Et puis, c'est un acte de foi qu'on peut vivre adulte, ou si on le vit enfant, on peut aussi faire la confirmation du baptême quand on est jeune, quand on est en âge de prendre ses décisions pour soi-même. Et puis la Sainte Cène, eh bien, témoigne de manière visible du rassemblement de l'Église et de la nourriture qu'elle reçoit. Et en fait, si Jésus nous demande de prendre la Sainte Cène, c'est qu'il nous dit que nous en avons besoin. J'ai déjà rencontré des chrétiens qui me disent « Non, mais moi, je vis ma foi tout seul dans mon coin, c'est tellement confortable, on n'a personne pour nous remettre un peu en question. » Mais non, Jésus nous dit « Vous avez besoin de cette nourriture spirituelle régulière qui est l'entente de la parole et la Sainte Cène. » Alors, dans notre Église, la Sainte Cène ne se prend pas tous les dimanches. Aujourd'hui, nous n'aurons pas la Sainte Cène parce que l'écoute de la parole et de la prédication est au centre du culte. La prédication, c'est la proclamation de cet amour inconditionnel pour tous et toutes. Et l'Église encourage l'approfondissement spirituel de chacun. Cela commence bien sûr avec le culte, ou cela est nourri avec le culte et l'écoute d'une parole de vie, mais il y a d'autres moyens aussi. Et dans les exhortations du synode aux paroisses, eh bien, l'encouragement est un encouragement à témoigner de ce que nous avons reçu, donc de l'individuel au collectif, le collectif nourrit l'individuel et l'individuel va vers d'autres individuels. Et on a souligné sous toutes ces formes ou sous différentes formes, parce qu'évidemment, on ne va pas avoir la même manière de témoigner selon notre histoire de foi. Le texte du synode nous encourage aussi à soutenir et développer des actions d'entraide et de solidarité envers les plus fragiles. Et quelqu'un est intervenu en disant que c'était les deux jambes de l'Église, l'annonce de la parole et ce qu'on appelle dans notre jargon la diaconie ou l'entraide. Une autre exhortation encourage à penser plus largement la mission de l'Église. Le synode invite les églises locales à repenser leur mission spécifique d'annonce et d'accueil. Alors évidemment, on a très vite senti dans notre synode ceux qui ont une annonce un petit peu plus volontaire, je dirais, et ceux qui disent « Non mais, on ouvre les portes de notre église le dimanche, tout le monde peut venir. » Et certains ont fait remarquer « Oui, mais il y en a peut-être qui ne savent pas où sont nos portes, où les trouver. » Alors, on est encouragé à avoir une action plus réfléchie et plus concerté, volontariste. Et pour cela, eh bien, chaque membre a besoin d'être mis en route dans les dons qu'il a reçus. Donc le synode invite les églises à mettre en mouvement chacun de leurs membres selon leur charisme et à coordonner les talents de chacun au service de l'annonce de l'Évangile. Alors à ce stade de la réflexion, j'aimerais dire une chose sur le rôle du pasteur ou de la pasteur qui a reçu un charisme un peu spécifique, mais il ou elle ne peut pas tout faire. Souvent, on se repose sur le pasteur, mais notre fonctionnement d'église se fait de manière collégiale, c'est notre spécificité. Et même si le pasteur a le désir de proposer de nouvelles initiatives, il ne peut pas le réaliser seul. Alors, je vous donne un exemple. J'ai repensé après coup au premier confinement. Un choc énorme pour tout le monde où, en fait, on était tous sidérés et paralysés. Et je me suis dit, il n'y a pas longtemps, mais pourquoi finalement je n'ai pas pu faire un accueil à distance sur notre parvis, aux passants, parce qu'il y avait quand même des gens qui promenaient leurs chiens, par exemple. Donc j'aurais pu entrer en discussion avec ces gens-là. D'ailleurs, je n'avais même pas de masque encore à l'époque. Alors que je prêchais cette parole d'espérance le dimanche. Donc ça a été, voilà, une réflexion qui est venue. Et je me suis dit, il y a bien sûr cette paralysie qui nous empêchait de faire des choses, qui nous empêchait, en fait, qui nous prenait une énergie, parce qu'on a beaucoup déployé d'énergie pour communiquer avec vous par le culte enregistré. Mais j'en ai même pas eu l'idée. Je n'arrivais pas à réfléchir toute seule dans mon coin à me dire mais comment on peut faire. C'est ensemble que nous aurions pu imaginer quelque chose. Du coup, tous les projets sont à discerner et à réfléchir. Et dans le texte du synode, j'ai été frappée par le tout premier mot adressé aux églises. Elles sont invitées à prier et à discerner joyeusement, ça a été rajouté, l'œuvre de l'Esprit en leur sein. Cette demande nous rappelle en tout premier lieu que nous ne sommes pas là en notre nom propre. L'Église n'est pas là pour montrer seulement qu'elle existe, mais a comme tâche de se mettre à l'écoute de Dieu pour savoir comment avancer. Intelligence et prière se nourrissent mutuellement. Alors là aussi, les deux dimensions, individuelles et collectives, de la prière me paraissent fondamentales. Bien sûr, les protestants préfèrent largement ce que nous demande l'Évangile. Entre dans ta chambre et ferme la porte. Et là, prie le Père qui est dans le secret et il t'écoutera. Alors c'est bien de prier chacun dans notre chambre, mais je me pose quand même la question de la prière plus collective qui est bien mise en valeur dans les actes des apôtres et dans les épîtres de Paul. Et en dehors du culte où nous prions, bien sûr, la prière en petit groupe se fait de façon très variable dans les paroisses. Nous avons eu un exemple à Dreux, une paroisse qui était mourante, et bien quelques personnes priaient pour le renouveau de l'Église. Ce renouveau est arrivé aujourd'hui avec une équipe qui remonte la paroisse. Et à Beauvais, bien nous avons monté aussi un petit groupe de prière qui a perduré très longtemps. Alors à Montrouge, nous avons aussi un tout petit groupe de prière. Nous sommes trois, nous vous invitons évidemment à nous rejoindre. Et nous portons des sujets très divers. Nous prions pour les personnes de la paroisse. Nous prions pour des personnes qui nous sont chères, personnellement aussi. Et puis nous prions pour l'Église, pour des sujets plus larges qui nous préoccupent. Et la force d'une prière collective s'expérimente de la même manière que nous avons pu expérimenter la bonne nouvelle pour nos vies. C'est un réconfort en même temps qu'une force pour aller de l'avant. Nous ne sommes pas là en notre propre nom. Alors un dernier mot sur notre synode. Ce n'est pas un lieu qui rassemble des gens parfaits, loin de là. Mais l'assemblée que nous formions a su dire non à une décision qui n'avait pas été expliquée et préparée en amont. Eh bien oui, Jésus quand même a été un vrai pédagogue spirituel. Eh bien nous aussi, nous avons à apprendre à être des pédagogues pour faire passer des décisions. Comme c'était une décision financière qui engageait toutes les paroisses, eh bien il a été décidé de refaire un nouveau synode le 19 mars, sur une journée, à Paris. C'est la première fois que j'assiste un report, et les personnes qui étaient là avant moi dans les synodes le disent aussi. Ça va nous faire réfléchir. Mais en tout cas, l'assemblée synodale a joué parfaitement son rôle de veilleur. Alors, il se trouve que dans notre rythme du conseil presbytéral, nous allons nous réunir samedi prochain en séminaire, nous irons à Lambrecht, pour réfléchir au projet de vie en particulier. Donc nous allons, voilà, prendre ce temps, et puis c'est avec vous tous que nous voudrions avancer sur le projet de vie, parce qu'un projet de vie ne peut pas être vécu dans une paroisse si chacun d'entre vous, vous n'êtes pas partie prenante. Alors nous vous en reparlerons. Et il est vrai que Le rêve que je pourrais faire, c'est que de la même manière que nous avons chacun et chacune une place dans l'amour de Dieu, eh bien, nous aimerions, j'aimerais que dans notre Église, chacun et chacune ait une place aussi et se sente utile pour nous tous. En tout cas, aujourd'hui, ensemble et chacun, nous avançons, nous pouvons être appelés par cette parole qui nous interpelle et qui nous sauve. Amen.